Bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Dans ce troisième épisode, je reçois Raphaël Audemars, plus connu sous le nom de Raphaël Fitness sur les réseaux. Alors Raphaël se découvre une passion pour la musculation et la préparation physique dès l'âge de 17 ans. Il décide peu de temps après de devenir entraîneur personnel dans le but de préparer des athlètes de haut niveau, notamment dans son sport de prédilection qui est le basket, mais choisira finalement de pivoter vers un autre type de clientèle. Alors après ses études, il décide de profiter de sa double citoyenneté pour venir au Canada. Quelques années plus tard, Raphaël est entraîneur personnel à Montréal, dans un gym, et son succès l'amène à référer certaines demandes et certains clients à des collègues. Alors son approche dans l'entraînement privé, elle est unique, et sa vision du coaching ne se limite pas uniquement à compter les répétitions, à être présent lors d'une session sportive. Il tisse des liens particuliers avec ses clients, il essaye de les accompagner au plus près dans la réalisation de leurs objectifs. Il essaye aussi de révéler les vraies motivations, ce qu'il appelle les motivations intrinsèques, pour les aider au maximum à avoir des résultats rapides et durables. Et dans cet épisode, on va voir justement quelle est cette méthode, cette façon qu'il a de coacher. Alors également, ce qu'on va voir, c'est quelle est la réflexion qui a poussé Raphaël à devenir entraîneur privé à ses débuts. On va discuter de cette méthode qui est très personnelle et qui permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs. On passera aussi sur la différence de mentalité entre le Québec et la France en ce qui concerne le fitness, la musculation. Il va nous parler des différents facteurs psychologiques qui peuvent vous empêcher d'aller en salle de sport, d'aller faire votre activité. Comment trouver sa vraie motivation, ce qu'il appelle une motivation intrinsèque. Ensuite, en termes de blessures, quel est le risque pour votre dos en cas de surpoids, notamment si vous avez de la graisse qui se répartit plus sur le ventre. Nous allons voir également un petit modèle d'entraînement, brûleur de graisse, en seulement 45 minutes. Comment avoir une diète qui reste saine, même si vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, que vous n'avez pas le temps de cuisiner. Et Raphaël va nous partager une technique plutôt astucieuse, que j'ai appelée la technique des dates, pour éviter les craquages alimentaires, en plein milieu de journée par exemple. Sur ce, je vous laisse avec la discussion que j'ai eue avec Raphaël. Et quant à nous, on se retrouve à la fin de cet épisode. Raphaël, bonjour.
Salut Jérôme.
Bienvenue sur le podcast Biomécanique. Ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Est-ce que, dans une première question, est-ce que tu pourrais nous dire la première fois que tu sais que tu es rentré dans un gym ou une salle de sport, est-ce que tu t'en souviens ?
Première fois, à mon avis, ça devait être, je devais être en première, ouais, première autour de 16 ans, 17 ans à peu près, je pense. Ouais, c'est ça. J'étais dispensé de sport suite à une opération du genou. J'ai eu les ligaments croisés et après ça, j'ai dû faire un peu de rééducation. Et puis, c'est là la première fois où je me suis inscrit dans une salle de sport.
Ouais, c'est tu as été contraint plus qu'un choix personnel finalement à ce moment-là.
Oui et non, parce que j'ai toujours fait des pompes, des tractions, j'ai toujours été super actif, super sportif, donc ça m'a toujours attiré. Mais de là à, tu sais, quand on est adolescent, plus jeune, on fait souvent le sport du village. Moi, le sport du village, c'était le basket. Puis j'ai eu une grande passion pour ça, donc j'ai beaucoup joué au basket. Et je n'avais pas senti vraiment le besoin de m'inscrire dans une salle, peut-être pas assez mature encore aussi. Et quand j'ai pu ne faire plus que ça, parce que j'étais blessé, ben c'est là que j'ai passé la porte du gym, puis c'est là que ça m'a vraiment plu tout de suite.
Ouais, et tu t'es découvert la passion à ce moment-là. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose en particulier ?
Je te dirais la progression, puis le fait que moi j'ai toujours été très sérieux dans le sport, plus sérieux dans le sport qu'à l'école, tu vois. Et en fitness et en musculation, c'est le sérieux qui paye. Et je pense que c'est ça qui m'a plu, le fait de tout le temps que tu mets à une importance, le sérieux que tu mets à une importance. Et je pense que ça, c'est la clé de la chose qui m'a fait embarquer tout de suite.
Ouais, la discipline liée à la patience, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Et surtout en musculation, ou en entraînement, même en force.
Exactement. C'est sûr qu'il y a plein d'autres facteurs qui sont hyper importants, mais en tout cas, dans les yeux d'un débutant, là, c'est ça qui fait que tu progresses rapidement. C'est le nombre de fois que tu vas à la salle, c'est le sérieux que tu mets, c'est le fait de pouvoir aller aussi chercher. Je trouvais ça super cool de. T'es au début, tu connais rien, tu vas chercher sur Internet. Oh, cette technique a l'air bonne. Oh, ce gars s'entraîne comme ça. Oh, puis tu vas tester toi-même. Tu fais, oh, ça, c'était un entraînement incroyable. Et c'est le fait que ça soit hyper complet en fait en termes de choses à faire, alors que qu'en réalité, tu travailles toujours ton même corps là. Je trouvais ça super intéressant.
T'avais une façon de t'entraîner au début, sur quel modèle tu t'appuyais quand tu as commencé, ou alors peut-être que tu avais déjà un programme préétabli du médecin ou de la personne qui te suivait?
Non, les premières fois où je m'entraînais, je t'avouerai que je m'entraînais vraiment classique, classique. Là, il me semble que c'était du 4x12. C'était la chose qui ressortait le plus souvent sûrement sur Internet, là. Donc, j'ai commencé avec ça. Puis, au début, je me suis beaucoup inspiré de Superphysique. Rudy quoi, là avec toute sa page et tout son site internet était bien fait et toujours très bien fait. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça et j'ai essayé plusieurs techniques sans vraiment avoir de planification, de réelle planification, mais j'ai toujours essayé pas mal de choses en m'inspirant de tout ce qui était sur internet.
Ok, ouais, super physique et qui regorge d'informations. Donc t'es un enfant super, t'es un enfant de super physique. Il y en a beaucoup qui le sont, que je côtoie, qui pratiquent depuis entre 5 et 10 ans, quelque chose comme ça, qui ont établi leur expertise, leur expérience autour de ce qu'ils ont retrouvé sur la communauté super physique.
Ouais. Actuellement, je suis pas toujours très très fan de Superphysique, mais en tant que débutant, c'est vraiment la Bible. C'est parfait, tout est très clair et très bien expliqué. Puis, c'est assez simple à intégrer dans les entraînements. Donc non, c'est une mine d'or, Superphysique quand même.
Ouais. Et donc, tu t'inscris, tu te prends un peu de passion pour cette activité. Et à partir de quand tu décides de vouloir de devenir entraîneur, devenir coach? Est-ce que c'était tellement quelque chose que t'aimais que t'en as voulu en faire ton métier?
C'est vrai que moi, ma blessure a beaucoup joué parce que c'est là que j'ai vraiment pris goût, comme je te disais, à la musculation. Quand j'ai repris le basket, les années ont avancé un petit peu. Je suis allé jouer dans une équipe meilleure à l'université, quand même un bon niveau pour mes capacités. Puis je me suis retrouvé à être le plus nul de l'équipe, en fait. Alors qu'avant, dans mon village, j'ai toujours été dans les meilleurs joueurs. Là, je me suis retrouvé dans le bas de l'échelle. Donc, il fallait que je compense. J'ai pas un physique incroyable génétiquement par rapport à ma taille et tous les facteurs de performance du haut basket. Donc, j'ai dû travailler mon explosivité, j'ai dû travailler un petit peu mon endurance, mon cardio, tout ce qui était ma détente, tout ce qui était facteur de performance au basket pour pouvoir devenir meilleur. Et donc, quand j'ai été à l'université, on faisait déjà plein de sports avec les cours. Moi, je faisais du basket à côté dans une assez bonne équipe, en fait, une bonne équipe où j'ai dû justement essayer de me mettre au niveau. Et donc là, la préparation physique, basket, passant par la musculation, a été obligatoire pour moi. Donc c'est là que je me suis acharné encore plus dessus. C'est là que j'ai encore plus pris goût. Et à la fin de l'université, en fait, à la deuxième année, j'ai dû faire un choix de vers quelle branche aller. Je me suis dit, oh non, il faut que j'aille vers l'entraînement parce que ben, je m'étais vraiment pris par passion. Puis je me suis dit, il faut que je puisse rendre les gens meilleurs physiquement. Dans un sport, il y a toujours l'aspect technique, puis l'aspect physique. Moi, je me suis dit, oh non, l'aspect physique est tellement important que je pense qu'on peut créer, on peut faire augmenter les performances de n'importe quel joueur, de n'importe quel sport, grâce au physique. Et c'est là que je me suis dit, ah, il faut que je pousse un peu plus là-dedans.
T'avais l'idée de coacher des athlètes dans le basket spécifiquement ou pas forcément? À ton départ, enfin l'idée initiale que t'avais quand t'as commencé ce.
L'idée initiale, c'était exactement ça, le basket. Vraiment la préparation physique basket. D'ailleurs, j'ai fait tous mes stages là-dedans. J'ai coaché comme coach principal de l'équipe, mais j'ai aussi j'ai comme créé un petit stage où je secondais un coach, puis je m'occupais de tout l'aspect préparation physique, puis l'aspect justement développement des capacités de performance physique. Et donc,
D'accord.
ça m'a confirmé que j'aimais ça. Et j'ai toujours pensé que j'allais bosser soit dans un club de haut niveau, soit semi-pro, mettons, ou soit dans la préparation physique, créer un métier par rapport à la préparation physique. C'est un petit peu ce que j'ai fait, mais j'ai visé un autre public finalement.
Ouais, comment t'en es venu à faire ce switch?
Je me suis rendu compte que la demande, c'est toujours une offre, c'est toujours l'offre et la demande. Et la demande sport, la préparation sport de haut niveau est beaucoup moins grande que la remise en forme, puis le problème aussi de perte de poids là, qui fait que les entraîneurs sont bien occupés. Et c'est là qu'en fait j'ai pivoté directement vers monsieur et madame tout le monde plutôt que le sportif de haut niveau. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup plus d'emplois et de travail dans ce domaine-là, du fait que maintenant la condition physique, la mise en forme est quelque chose d'omniprésent dans toutes les têtes. Tout le monde sait que le sport, c'est bon pour la santé, et tout le monde sait que ne pas être en forme, c'est un problème. Donc, les gens se tournent de plus en plus vers les entraîneurs, et c'est là que je me suis dit, ah, je pense qu'il y a un créneau là-dessus. Et j'ai lancé un petit peu mon business là-dessus.
Et quelque chose que tu me disais hors enregistrement la dernière fois qu'on s'est vu, et que je trouve intéressant, c'est que finalement, entraîner des athlètes, ça peut être très intéressant, ça peut être épanouissant, parce qu'il y a un niveau, il y a un partage de, il y a un certain partage de connaissances, de certaines valeurs, enfin on appelle ça comme on veut. Mais que finalement, ils n'en ont pas tous besoin, ou dans le sens où les besoins des athlètes par rapport à un coach, sont un peu plus réduits parce qu'ils ont un niveau qui est beaucoup plus important. Le milieu est beaucoup plus fermé aussi. Contrairement à, comme tu disais, monsieur et madame tout le monde, qui finalement n'a pas eu le temps de faire des études dans le sport, de se renseigner, d'éplucher un petit peu tout ce qu'il faisait, de tester les exercices, de tester les programmes. Et c'est là où l'entraîneur va avoir un rôle hyper important. C'est que tout ce travail d'adaptation, monsieur, madame, tout le monde n'a pas besoin de s'en occuper. Je veux dire, c'est le coach qui s'en occupe de tout ça.
C'est sûr que l'impact est beaucoup moins grand dans le sens où c'est sûr que entre groupes de haut niveau, entre plusieurs équipes dans le même championnat, je ne suis pas sûr que ce soit le préparateur physique qui fasse gagner, mettons, l'équipe. Il y a vraiment un aspect aussi technique, stratégique. Donc, tu as un impact énorme, ça c'est sûr. Notamment prévention de blessures, puis hors saison en augmentation de performance. Mais j'ai trouvé, et puis je trouve toujours, que quand une personne arrive et ton obésité morbide, bon ben là, la faire reprendre l'activité, lui inculquer un petit peu des valeurs sportives, puis la remettre un petit peu sur le chemin du sport, quasiment tu lui sauves la vie. Donc l'impact est encore plus grand. Et ça, c'est sûr que ça, en fait, pas ça vaut la peine, mais la mission est différente. La mission est bien différente. Et gérer du micro-détail dans un sportif de haut niveau qui, lui, s'entraîne depuis déjà 15 ans, tous les jours, très très fort, puis toi, tu vas prendre un an pour lui faire gagner, je sais pas, 5 kilos sur un de ses exercices ou 1 cm de plus en détente verticale. Ouais, oui, c'est génial, oui, c'est super bon. Mais quand tu tombes à quelqu'un qui a 50 kilos de trop, puis qu'en 6 mois, tu arrives, pas 6 mois, mais en un an, tu arrives à lui faire perdre, puis que finalement, elle est recapable de courir, puis ça faisait 5 ans qu'elle n'arrivait pas à courir, ou qu'elle est capable de reprendre les escaliers pour monter chez elle à la place de l'ascenseur parce que elle pouvait pas dû à son embonpoint, ben c'est une autre victoire. En fait, c'est une autre victoire et c'est quand même assez gratifiant et puis assez intéressant comme métier.
Ouais, il y a vraiment un résultat qui est quantifiable d'un point de vue physique, performance, psychologique, un vrai accompagnement qui va au-delà juste de la toute petite statistique de performance ou d'amélioration. Ça englobe beaucoup plus la personne et l'ensemble.
Ben c'est vraiment différent en fait. Je dirais que c'est deux métiers complètement différents. Parce que c'est très très gratifiant quand même d'arriver à faire évoluer des joueurs, des sportifs de haut niveau. C'est vraiment une super mission. Puis j'adore ça. Puis j'adorerai ça toute ma vie, ça c'est sûr. Mais c'est un autre métier complètement où tu es plus dans la mise en œuvre de quelqu'un qui est débutant ou de gérer quelqu'un qui est très confirmé, tu veux le rendre encore plus confirmé. La mission est vraiment différente. Et moi, actuellement, dans cette période de ma vie actuelle, là, j'ai fait le choix d'aller aider un petit peu les personnes qui ont zéro repère.
T'as commencé tes études, enfin tu as commencé, tu as fait tes études en France.
Oui.
Tu as commencé à travailler en France et ensuite tu as décidé de venir au Canada.
En fait, j'ai jamais travaillé en France dans mon domaine, finalement, parce que
D'accord.
j'ai fini mes études en mai 2016 et en juin 2016, j'étais au Canada. Donc, le peu de travail que j'ai fait en France était soit pas lié à la préparation physique, soit c'était des stages. Donc, je considère pas avoir travaillé en France. J'ai directement travaillé au Canada, finalement.
Ok, pour quelle raison t'es directement parti?
Premièrement, l'aventure. J'étais venu 3 mois en vacances, un petit peu à l'aventure avec des amis en 2014. J'avais beaucoup aimé ça. Et puis, j'ai la chance d'avoir une mère québécoise, donc j'ai la double citoyenneté, la double nationalité. Ce qui fait que pour moi, les papiers étaient très faciles à obtenir. Je suis déjà arrivé avec mon passeport. Donc, je me suis dit, c'est quand même bête de pas aller profiter de ça. Et donc, à l'origine, j'étais parti pour faire une autre formation en naturopathie. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en arrivant, en fait. Mais il fallait bien que je vive un petit peu. Alors, je me suis dit, je vais me trouver un petit travail, un petit job. Et en fait, j'ai commencé avec un partenaire que j'ai toujours actuellement dans l'entraînement privé, donc pour monsieur et madame tout le monde. Et en fait, ça a tout de suite bien marché. Puis de fil en aiguille, j'ai continué. Mon business s'est développé. Puis, actuellement, j'y suis encore dessus, quoi.
Même si t'as pas travaillé en France, tu as quand même côtoyé différents sportifs en France, tu es allé dans plusieurs salles de sport. Est-ce que tu as remarqué des différences particulières dans la manière de s'entraîner, de faire des exercices, de voir le sport? Des choses qui t'ont marqué, de différence entre la France et le Québec en tout cas?
Je trouve que ça, je pense qu'il y a un petit peu d'avance. Je pense au Québec dans le sens où ils sont beaucoup inspirés des États-Unis, puis le gym dans les États-Unis, le fitness aux États-Unis prend une grande place. Je pense qu'ils sont un petit peu en avance au niveau, en termes d'infrastructure et puis de monde dans le sens où quasiment tous les Québécois ont mis les pieds une fois dans un gym ou déjà des abonnements. Je pense qu'en France, on n'est pas encore arrivé là, mais ça arrive tranquillement. Donc, je pense que ce serait juste peut-être un retard où ça soit un petit peu moins inscrit dans les habitudes des gens en France. Mais à part ça, Maintenant, avec Internet, puis avec tous les réseaux, je trouve que le développement se suit quand même beaucoup. Puis il n'y a pas forcément de technique à part entière entre le Canada puis la France. Là, ça se ressemble quand même pas mal.
Ouais, c'est vrai qu'en France, ça commence à venir pas mal. Il y a toutes les chaînes, il y a les fitness parks, les Basic Fit, tout ça qui ont explosé ces dernières années, les chaînes de musculation low cost. Donc ça aide pas mal à la propagation du fitness.
Ouais.
Pour un bien ou pour un mal, ça dépend parce que tu y a toujours les à côté aussi.
C'est sûr.
Mais ce que je retrouve surtout, c'est la mentalité. Comme tu disais, tous les Québécois ont au moins mis une fois les pieds dans un gym. Ce qui n'est pas encore le cas en France, et même la façon de voir le sport où c'est beaucoup moins marginal, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple, tu peux très bien sortir ton shaker de whey dans la rue,
Ouais.
il n'y a personne qui va te regarder bizarrement, il y a des chaînes de café ici, notamment le Second Cup, pour pas le nommer, qui est une chaîne de, pour ceux qui savent pas, une chaîne de café uniquement au Québec, je crois, un peu comme un Starbucks, mais uniquement ici. Ils proposent de la whey dans leur plat, enfin dans leur boisson, il y a de la whey. Tu peux rajouter de la whey dans un café, dans un shake ou quoi. Ça, je trouve que c'est un truc qu'il n'y a pas en France du tout. Ouais. Tu vas dans un café, tu demandes de la whey, on ne sait pas de quoi tu parles.
Non, c'est ça. Non, c'est un petit temps d'avance, mais tu vois, ça m'étonnerait pas que ça arrive assez rapidement en France là.
Ouais.
La rapidité, puis la facilité, c'est un petit peu le mot d'ordre en Amérique du Nord. Donc, ça m'étonne pas que tu retrouves de la whey assez rapidement. S'il suffit qu'on ait vanté un petit peu les bienfaits, puis la facilité d'utilisation, puis ça se retrouve facilement dans les commerces. Donc non, ça m'étonnerait pas que ça, dans 5 ans, on s'en reparle, puis ça fonctionne en France, puis que ça se démocratise aussi.
Ouais. Il y a quand même pas mal d'accès aussi à tout ce qui est junk food ici, hein.
Oui.
Alors peut-être pas autant qu'aux États-Unis, parce que là-bas c'est le top du top. Mais le sucre, le gras, je veux dire, il y en a pas mal, hein. Enfin, on est à Montréal, là, on y reviendra après, mais je veux dire, tu peux retrouver, voilà, si tu as envie de manger mal, tu vas pas avoir de problème là-dessus. Parallèlement, par rapport à ce que je retrouve, moi, aux pratiquants qui s'entraînent, il y en a qui ont de très bonnes performances, qui ont des physiques assez incroyables pour certains, ou il y en a qui ont de bons physiques. Mais en termes de body fat, je trouve que ça correspond assez avec cette junk food qu'il y a partout. Il y a très peu de personnes qui sont sèches ou disons qui seraient entre du 10 et du 15% de masse grasse, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, qui es entraîneur, tu dois côtoyer ça tout le temps.
J'ai jamais fait attention parce que moi je pense que ma clientèle reflète pas vraiment les gens qui vont dans les gyms justement. C'est plutôt des gens qui n'arrivent pas à aller dans le gym. Donc ma clientèle, je pense pas qu'elle est vraiment qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Dans le gym, j'ai pas trop remarqué ça, mais ça m'étonnerait pas dans le sens où c'est tellement accessible, comme tu disais, la junk et le sucre et le gras, c'est tellement accessible que c'est facile. C'est vraiment facile de prendre quelques kilos puis de prendre un petit peu de graisse, donc ça m'étonnerait pas. Moi, j'ai jamais fait trop le rapport par rapport à ça, mais c'est sûr que si on devrait prendre les morphotypes moyens au Canada et les comparer avec ceux en France. On est beaucoup plus slim, on est beaucoup plus mince en France. On est vraiment plus fin, fait plus petit comparément à ici où les gens ont vraiment plus, c'est vrai, du gras, puis plus facilement un petit peu d'embonpoint. Je pense que tu pourrais faire une comparaison facile entre les tailles de vêtements. Si tu prends du S en France et tu prends du small ici, la taille est pas du tout la même, dû au fait que le small canadien, il est un peu plus large généralement que le small français. Donc ça, je pense que oui, c'est vraiment dû à la facilité de mauvaise nutrition. Là, c'est vraiment facile de manger mal au Canada. Et ça a un impact forcément sur le body fat, puis les gabarits, quoi.
Ok. Alors aujourd'hui, tu es entraîneur personnel et kinésiologue. à Montréal.
Ouais.
Alors, la dernière fois qu'on a discuté, tu avais une vision qui était vraiment très humaine et personnelle hein, dans l'accompagnement de tes clients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu vois le coaching finalement? Parce que là, on parle de monsieur et madame tout le monde qui ont, et c'était intéressant ce que tu as dit, qui ne fréquentent pas forcément les gyms, et toi, tu justement, tu es là pour essayer de les remettre en forme, de leur faire atteindre les objectifs. Et comment tu t'y prends?
Ben en fait, moi, il faut bien savoir que les gens qui viennent me voir, en grande partie, c'est pas tous, mais la majorité, la grande majorité, sont des gens qui n'arrivent pas à aller tout seul à la salle de sport. Il y a plusieurs facteurs, soit la motivation, soit ils ne savent pas quoi faire, soit ils pensent qu'ils peuvent pas y arriver, soit ils sont démotivés, puis ils abandonnent tout de suite. Donc moi, c'est ce genre de clientèle que j'attire. Et il y a plusieurs types de coachs. Puis moi, j'en suis un. Je pense que je fais partie d'une catégorie. Moi, je pourrais m'appeler le coach paternel. C'est-à-dire que je couvre beaucoup la clientèle. Je suis très, très proche dans le sens où on a plus une relation, disons, amicale, comme si on était des amis, plutôt que un coach vraiment, j'allais dire dictateur, mais vraiment professionnel, où je fais mon métier d'entraîneur, puis ça s'arrête ici. Moi, avec ma clientèle, je ne pourrais pas être juste le coach. Oui, tu arrives là, tu fais ça, 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 sans amener un petit peu le côté social et les comprendre et les accompagner comme si j'étais un petit peu leur guide et leurs amis, parce que sinon, ils ne se retrouveraient pas en fait. Ils ne viennent pas me voir pour justement mon côté professionnel, enfin, oui quand même, mais c'est le fait que j'arrive à créer une relation, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils sentent qu'on avance quand même ensemble. Il y a le côté psychologique qui rentre en jeu. Et moi, je pense que c'est ça un petit peu qui fait que ça fonctionne et que les gens restent et ont des résultats, parce que c'est vraiment un travail de long terme avec moi. C'est malheureusement, généralement, les gens qui arrivent et qui ont, je sais pas, un 20 kilos à perdre, je peux pas faire des miracles non plus. Et si eux sont jamais arrivés à le faire tout seuls, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment sur le long terme qu'on va arriver à avoir de bons résultats. Et pour arriver à ce long terme, je peux pas rester juste l'entraîneur professionnel qui parle à peine et puis qui juste montre pointe du doigt, tu fais cet exercice et puis après tu fais celui-ci et puis celui-ci. Donc je suis obligé de créer quand même une certaine proximité avec mes clients, puis je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne tout de suite. Parce qu'on crée des liens, eux ils ont confiance en moi, moi je leur fais confiance, j'arrive à comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qui fait qu'ils en sont là, et on avance avec ça et actuellement ça fonctionne très très bien.
Comment tu t'en es rendu compte que cet aspect social et de tisser des liens était bien plus efficace que uniquement en rôle professionnel?
C'est pas vraiment une découverte, c'est un peu juste ma façon de faire. Et cette façon de faire, je me suis rendu compte que pas tout le monde ne l'utilisait et que ça marchait bien pour moi et des fois moins bien pour les autres. Donc je me suis vraiment rendu compte que, en fait, c'était un peu de la chance. Finalement, c'est ma personnalité fait que je suis pas capable moi d'être vraiment professionnel. Et quand j'entraînais des jeunes au basket, c'était la même chose. Donc, j'ai toujours été très très paternel, encore une fois. Et en fait, j'ai juste été moi-même, mais ça correspond vraiment bien à ce que les gens recherchent en fait. Et je me suis comparé à plusieurs coachs et puis je pense que ma façon naturelle d'entraîner plaît beaucoup aux gens, parce que justement on crée une proximité et tout ça. Et dans l'entraînement personnel, les gens recherchent quand même plus quelque chose comme ça.
Plus un lien social, presque amical finalement, parce qu'ils vont se... Déjà, rien que le fait de se mettre à nu à côté de toi, je veux dire, ils vont suer, ils vont se dépasser, leurs performances, elles sont ce qu'elles sont. C'est des personnes qui, j'imagine, n'ont pas une grande confiance, peut-être quand ils se présentent à toi pour la première fois. Donc, il faut qu'il y ait une confiance qui se fasse, parce qu'ils sont en tenue de sport, chose à laquelle ils sont peut-être pas habitués, ou qui sont rarement, et ils le sont à côté de toi, toi qui vas avoir ce regard sur eux, ce regard professionnel, neutre, mais en même temps bienveillant. Il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'ils puissent avoir envie de revenir, avoir envie d'affronter, entre guillemets, ton regard, tes conseils, et pour aller au-devant, quoi.
Exactement. Puis je pense aussi que ma clientèle n'est pas une clientèle qui arrive à aller au gym tout seul. Donc, c'est pas une partie de plaisir. Mettons, nous, on est des passionnés, on aime ça, on aime les gros entraînements, on aime travailler fort. Ma clientèle, c'est pas ça du tout, là. La plupart viennent au sport parce qu'on leur a dit, hey, si tu veux garder la santé là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc, si quand ils viennent au sport, c'est militaire et que c'est super dur et puis qu'ils prennent zéro plaisir, ça fonctionnera pas là. Mais s'ils viennent, puis que oh, on a plein de choses à se dire, mais on travaille en même temps, on tisse une amitié, on rigole, et ben l'expérience est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus agréable. Et c'est ça, je pense, qui fait que on avance à notre rythme. Du coup, vu que ça plaît, on s'amuse un petit peu, c'est ludique. Les gens continuent sur long terme, et c'est le long terme qui fait les résultats. Donc une fois que les résultats arrivent, la motivation continue, augmente, puis on avance comme ça.
C'est quoi les objectifs que les gens veulent atteindre ? Est-ce que c'est voir ses abdos ? Est-ce que c'est perdre tant de livres ? C'est prendre du muscle ? Ce que tu retrouves, toi, dans ta clientèle ?
Je t'avouerai que c'est plus un poids à retrouver. Mettons, j'ai un petit peu de tout, mais j'ai la femme, crise de la quarantaine, qui a pris quelques livres et puis qui se dit « Oh non, non, moi, j'étais bien à tel poids, donc je voudrais le retrouver. » J'ai aussi le papa de 30 ans qui dit « Oh là, je viens d'avoir des enfants, ils vont grandir bientôt, je veux aller jouer au ballon avec eux, je veux pouvoir courir, je veux être en forme, donc ok, je me reprends un petit peu en main. » Il y a aussi le jeune de 20 ans qui se trouve un petit peu trop mince et qui voudrait prendre un petit peu de muscle. Donc j'ai un petit peu tous les cas, mais en grande partie ça serait des pertes de poids, et pas forcément vers les abdos, mais ouais, j'aimerais retrouver ce poids là maintenant.
Ceux qui ont du mal, parce que j'imagine que tu as des personnes qui ont, comme tu dis là, qui ont fait plusieurs tests, qui ont essayé de se mettre au sport, qui se sont peut-être inscrits dans un gym, il y a 6 mois, il y a 1 an, ils ont laissé tomber, ils ont essayé de commencer une diète, ils ne sont pas arrivés, et puis un jour ils se sont dit « bon, je commence un entraînement privé, un accompagnement pour atteindre mes objectifs ». C'est quoi les premiers mots que tu vas avoir pour les motiver ? Parce que bon, déjà, ils ont pris la décision de prendre un entraînement privé, ce qui est déjà ça, mais mis à part cette approche personnelle que tu as, un peu paternelle, comme tu dis, est-ce que tu arrives à déceler les obstacles ou les manques de motivation, et qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a du mal à se motiver ?
Bon, en fait, j'essaie d'abord de comprendre pourquoi il est là. Si c'est des raisons intrinsèques ou extrinsèques, si, mettons, c'est le petit jeune de 18 ans qui est envoyé par ses parents parce que ses parents le trouvent trop gros, là, ça ne va pas être la même approche que la personne qui se rend compte qu'elle n'est plus du tout en forme puis qui veut vraiment changer les choses par elle-même. Tu vois, c'est deux sortes de motivations, extrinsèques et intrinsèques. Quand c'est intrinsèque, c'est assez simple. C'est-à-dire que je vois qu'est-ce qu'ils veulent faire, je vois où ils veulent aller. Et puis, ben, je leur maintiens cette motivation en leur répétant un petit peu, ben, écoute, si tu continues comme ça, ça devrait arriver assez rapidement. Regarde, là, tu augmentes, on se rapproche. Puis, je te dirais que les discours sont 100% positifs, et du coup, ça maintient une bonne motivation. Quand c'est extrinsèque, là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand c'est, mettons, une motivation extérieure qui vient pousser la personne à se retrouver dans mon service. Là, c'est de tout de suite essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait intéresser cette personne-là pour que ça devienne intrinsèque, pour que ça devienne d'elle, pour que ça devienne une motivation d'elle-même. Mettons, si la personne, je te donne l'exemple encore, la personne se fait amener par ses parents. Donc, petit jeune, 18 ans, il a un surpoids, ses parents veulent qu'il ait plus de surpoids. Bon, lui, il se retrouve là, mais il n'a pas forcément envie là. Il n'a fait aucune démarche pour être là, mais il est quand même là. Oh, ben, c'est de trouver un petit peu sa formule à lui pour que quand ils viennent, ben, ils prennent un petit peu de plaisir, puis qu'ils soient contents, puis que les résultats lui apportent quelque chose quand même. Un cas que j'ai déjà eu, c'était ses parents qui envoyaient le jeune pour perdre du poids. Lui, le poids, il s'en foutait un petit peu. Mais par contre, quand on augmentait les performances, quand on augmentait les charges, ben bon, là, il était assez fier. Je lui disais, ah, tu vois, t'as vraiment bien augmenté sur cet exercice. En fait, tu as une bonne force et tout. C'est sûr que là, dans un mois, on arriverait à battre ce record, ce serait vraiment bon. Puis quand on battait ce record, bah, il était super fier de lui, puis il aimait ça. Donc là, je me suis dit, OK, lui, il faut que tout ce que je lui raconte, il faut que ça soit autour de ses performances. Puis la perte de poids par rapport à ses parents qui, eux, veulent qu'il perde du poids, on s'en fout un petit peu. Donc c'est trouver qu'est-ce qui va valoriser la personne pour qu'elle se retrouve un petit peu dans l'entraînement.
T'en penses quoi, toi, de l'ego là-dedans? Il y a une forme d'ego finalement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'essayer de soulager, renforcer l'ego comme ça, que ce soit par des performances ou par un résultat, se sentir fier?
J'aurais pas parlé d'ego, mais j'aurais plus parlé de satisfaction. On veut tous s'améliorer, que ce soit mentalement, développement personnel, dans nos vies de tous les jours. Donc, c'est juste montrer à la personne qu'elle est capable, en fait. Et de trouver, pour faire augmenter l'estime de soi, il suffit de trouver qu'est-ce qui est important pour toi et de faire augmenter ce levier-là. Donc, moi, mon but, c'est ça, c'est de trouver qu'est-ce qui est important pour toi et puis ben, te montrer que tu es capable de t'améliorer dans ce domaine-là. Et au moins, quand tu t'améliores dans ce domaine-là, c'est important pour toi, ça augmente ton estime de toi, et puis là, tout va bien. Donc, moi, c'est déceler un petit peu les personnes et déceler qu'est-ce qui est important pour eux. Parce que tu vois, mon petit jeune, lui, perdre du poids, ça, il s'en foutait complètement, là. Mais j'ai trouvé que, bon, ben, son niveau de force et le fait qu'il progresse dans l'aspect force, dans l'aspect performance, ben ça, il aimait ça. Ça lui parlait à lui. Perte de poids, aucun sens. Ça parlait qu'à ses parents. Mais le fait d'augmenter ses performances, ça parle pour lui. Et puis, se sentir plus fort, ça a augmenté son estime. Ça, c'était important pour lui. Donc, j'ai misé sur cet aspect-là. Et le fait de miser sur cet aspect-là, ça devient une motivation intrinsèque. Oh, je veux devenir plus fort. Mais c'est quand même corrélé à sa perte de poids. Donc tout le monde est content et surtout lui, il est motivé. Et cette motivation, ça se ressent dans les entraînements. Il va toujours plus loin, toujours plus fort. Il est content de venir et sur long terme, il veut rester. Et ça fonctionne comme ça.
Et trouver cette motivation intrinsèque, t'y arrives assez rapidement ou des fois ça peut prendre vraiment plusieurs sessions avant de savoir vraiment ce que la personne a besoin, enfin veut intérieurement.
Ça peut prendre beaucoup de temps, puis ça peut ne jamais arriver finalement.
T'as déjà eu des cas comme ça?
Ah ouais, j'ai déjà eu des cas qui, même le côté financier finalement, ils s'en foutent totalement. C'est-à-dire que ils viennent, ils payent, puis pff, et ils savent pas pourquoi ils sont là, tu vois. Ils s'engagent et puis après c'est juste l'engagement qui fait qu'ils sont là. Donc là, pour moi, ces gens-là sont pas encore prêts parce que même eux, ils viennent parce que leur médecin leur a dit, ah, allez-y, il faut vraiment faire du sport, donc bah, ils se sont pris un coach, puis ils avancent avec le coach, mais au fond d'eux, ça a pas d'intérêt. Et des fois, ils pensent que c'est une perte de temps. Donc ben moi, là, je suis pas magicien non plus. Je peux pas leur faire avoir envie de s'entraîner si eux, ils y trouvent pas l'avantage, tu comprends? Donc là, ils sont tout simplement pas prêts à changer cet aspect-là de leur vie, puis c'est correct. C'est juste qu'ils vont prendre un peu plus de temps avant de trouver le réel intérêt. Et des fois, ça passe plus par un travail de leur côté que du mien, quoi.
T'arrives à expliquer ou à avoir des pistes de réflexion sur ça, que certaines personnes enfin, vont assez rapidement trouver un objectif intrinsèque comme ça, enfin une vraie raison personnelle, une envie, que certaines personnes vont le trouver rapidement, d'autres un petit peu plus éloignées, et que certaines personnes le trouvent jamais, comme tu dis là. Est-ce que tu as des pistes de réflexion sur certains antécédents, le travail, l'éducation. comment ça se fait qu'il y a un tel écart sur différentes personnes? Après, c'est une question moi qui me passe par la tête là. Il n'y a pas forcément de réponse et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse absolue, mais si toi, tu as déjà pensé.
Je dirais que c'est vraiment très personnel dans le sens où c'est ça, c'est le côté social que je crée avec eux va me permettre de mieux les comprendre, de savoir un peu plus qui ils sont. Et c'est là qu'on arrive à déceler un petit peu les motivations. Le coach très dictateur et professionnel, lui, il va pas s'occuper de la personne, il va s'occuper uniquement de la performance, puis de ce côté-là où on regarde les stats, puis le côté humain, bah, c'est secondaire, c'est uniquement professionnel. Donc moi, j'arrive avec ma philosophie de coaching à déceler un petit peu qui sont, en fait, qui sont les personnes avec qui j'interviens. Et c'est là que j'arrive à découvrir un petit peu, et selon les comportements, puis un petit peu les manières de penser, j'arrive à déceler. Mais je pense que oui, l'éducation joue un rôle, et je pense aussi les mentalités. Des fois, il y a beaucoup de gens qui ont de l'anxiété, pas trop de confiance, ce genre de dépression, des choses comme ça. Et du coup, ben, trouver un point où, avec le travail, ils progressent. Et ben, ça leur fait vraiment du bien. Et je pense que chaque personne est vraiment différente par rapport à ça. Puis c'est comme ça qu'on peut justement un petit peu déceler qu'est-ce qui ferait que ça fonctionne. Et en travaillant de cette façon, petit à petit, avec le temps, on découvre un petit peu qu'est-ce qui les amène à se motiver, quoi.
Ouais, la base de tout, c'est vraiment la personnalisation, hein, que ce soit dans l'entraînement, la motivation, la psychologie, c'est toujours pareil, hein.
Ben c'est ça, chaque personne est vraiment unique, et c'est en étant unique avec chaque personne qu'on arrive à les découvrir, quoi.
Alors toi, depuis que tu as entraîné pas mal de personnes, que tu as vu tous ces profils différents, est-ce que ça a changé ton propre entraînement personnel ou en tout cas ta vision du sport? Juste pour replacer un peu dans le contexte, tu t'entraînes combien de fois par semaine, toi, personnellement?
Oh, ça dépend des périodes, mais je m'entraîne quand même, je dirais un minimum de 4 fois là, 4 fois, 5 fois, ça arrive. Donc, je m'entraîne quand même encore régulièrement par passion, puis parce que j'aime ça. Est-ce que ça a changé ma façon de voir l'entraînement? Oui et non. C'est-à-dire que des fois, je fais de l'entraînement plaisir, donc j'essaie mettons, en ce moment, je suis dans une période où j'essaie de valider des choses que je sais pas faire. Donc, notamment dans l'aspect gymnastique, poids du corps, il y a plein de choses que je trouve super intéressantes, que je ne suis pas capable de faire, donc j'essaye d'arriver à les réaliser. Et ma satisfaction, c'est de réaliser, je ne sais pas, un muscle-up que je ne savais pas faire. Bon, maintenant, je sais le faire. Je ne sais pas en faire 50, mais je sais en faire 2-3, puis du coup, je suis satisfait que ça. Puis j'avance comme ça en essayant de valider pour être le plus complet possible, en fait. Mais sinon, ma vision de l'entraînement a pas forcément changé, parce que finalement, j'amène un sport différent à chacun, et du coup, il n'y a pas vraiment de bonne philosophie, quoi. Chacun a sa propre philosophie d'entraînement et se retrouve dans son entraînement, dans son 100% personnalisé, en fait. Donc, je pense que la clé, c'est quand même le plaisir au début, et puis la satisfaction d'avancer dans ce qu'on fait. Et une fois qu'on a ça, ça roule tout seul, quoi.
Pour revenir un petit peu à un de mes sujets de prédilection, les blessures dans le sport, et notamment en musculation, est-ce que tu as remarqué, toi, des blessures récurrentes de tes clients? Je vais juste prendre un exemple. La blessure qui revient le plus souvent des personnes que, soit que je côtoie, soit des personnes que j'ai en rendez-vous, des clients que j'ai en rendez-vous en consultation, ça va être vraiment les douleurs d'épaule du type tendinite, quoi. Et très souvent, le sus épineux qui est inflammé. Est-ce que toi, tu as une référence comme ça de blessure?
Oui, je pourrais y aller avec le bas du dos. Tension dans le bas du dos. Souvent, la prise de poids est localisée au niveau du ventre. Et du coup, ça fait un déséquilibre un petit peu. Donc, les lombaires sont toujours vraiment activés et en travail du fait de compenser puis de ramener un petit peu le centre de gravité vers l'arrière qui est contrebalancé par le gros ventre. Donc, ça arrive très très souvent. Sinon, j'ai aussi les douleurs aux genoux et aux chevilles. Là aussi, un poids corporel un peu trop élevé. Donc, la simple marche comme si je te mettais 40 kilos sur le dos et que tu devais maintenir ça toute la journée, bah forcément, c'est les articulations qui ramassent un petit peu en premier. Donc, douleur au genou, inflammation un petit peu au niveau des chevilles aussi. Donc, c'est assez ça qui revient souvent dû au surpoids en fait.
Pour le mal de dos, tu vois, c'est un truc même ceux qui pratiquent beaucoup de musculation avec beaucoup de poids sur le dos, tu sais, je pense au squat, je pense surtout au deadlift, tu sais, qui fait pas mal de ravages.
Ouais.
Il va y avoir aussi, alors ça va pas être la même origine, hein, parce que le surpoids fait que ça déplace le centre de gravité, comme tu dis. Tous les exercices de squat, de deadlift mettent énormément de pression sur les lombaires. Moi, ce que je préconise souvent sur les personnes qui mettent lourd, c'est de faire un peu de décompression. Alors après, il faut être capable de se tenir avec les avant-bras, mais se suspendre à la barre fixe pour vraiment décomprimer un peu les lombaires, c'est vraiment quelque chose que je recommande.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que j'allais te dire. Nous, moi, en décompression, j'utilise justement ça, l'ancrage sur une barre, puis on se laisse pendre. Ça fait toujours du bien, ça, c'est sûr.
T'as pas de programme spécifique pour les personnes qui ont des douleurs bas du dos. J'imagine que quand ils ont perdu pas mal de poids, ça va de suite mieux.
Exactement. Exactement, ça va vraiment mieux quand ils perdent le poids. Généralement, ça se règle très facilement. Puis, on travaille quand même toute la ceinture abdominale et du coup, ça augmente un petit peu le maintien. Donc, perte de poids plus renforcement musculaire, généralement, c'est super efficace, quoi.
Quelle est ton approche, toi, sur la perte de poids? Est-ce que tu es plus exercice cardiovasculaire
Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait. Moi, mes entraînements durent environ 45 minutes. Donc, en 45 minutes, je veux qu'on perde le moins de temps possible. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire une séance de musculation où je prends des temps de récupération de 2,5, 3 minutes de récupération. Ça ne marche pas parce que, écoute, on fait 6 séries, puis les 45 minutes sont passées quasiment. Donc, ça ne fonctionnerait pas. Moi, ce que je fais en ce moment qui fonctionne très, très bien, je trouve, ça serait un mélange d'intervalles et de musculation. Pour donner un exemple, je pars sur un 5 minutes, 30 secondes, un exercice très cardio, donc on va faire monter énormément la fréquence cardiaque, enchaîner tout de suite avec un exercice plus musculaire, où là on va aller chercher plus à stresser le muscle de façon intensive, mais qui va calmer un petit peu la fréquence cardiaque, ou du moins qui va garder un petit peu un niveau élevé sans être vraiment dans du cardio pur et dur. Et ça, enchaîné sans récupération sur un 5 minutes, 30 secondes l'un, 30 secondes l'autre, et puis on enchaîne comme ça. Ça fait de très bons résultats, on gagne beaucoup de temps, et puis on est allé chercher toutes les choses que je voulais travailler, autant musculaire, autant cardiovasculaire, et je trouve ça super intéressant.
Derrière, tu leur mets une diète, un plan nutritionnel en place ou tu collabores avec quelqu'un, un nutritionniste par rapport à ça?
Je m'occupe de ça aussi. Je m'occupe de ça aussi. J'ai travaillé justement sur une sorte de plan, rien à voir avec un régime, mais c'est vraiment, en gros, essayer de sensibiliser puis de les aider. Donc en fait, comment on fait? Je pars de ce qu'ils font déjà actuellement et j'essaie de leur faire une journée parfaite. Donc en gros, je te demanderai, toi, Jérôme, qu'est-ce que tu manges actuellement dans ta journée la plus classique? Tu vas tout me décrire. Moi, je vais prendre ça en note et je vais essayer de faire une estimation. J'ai tout plein de tableaux pour estimer en gros tes calories. Et puis, dans les trois quarts du temps, bon, ben, la personne qui vient pour une perte de poids, elle est toujours au-dessus de ses calories de base. Donc, elle est toujours supérieure. Donc, à partir de là, on va essayer de trouver des astuces pour que on baisse un petit peu ce niveau, cet apport calorique. On remplace les mauvaises choses par des bonnes choses. Et puis qu'on s'organise pour qu'elle, au cours de la journée, elle n'ait pas faim, que ça soit facile à réaliser pour elle aussi. Parce que souvent, c'est super bien de faire des super programmes où tu cuisines 3 repas par jour, super bon et tout. Mais les personnes qui n'ont pas le temps et puis qui n'arrivent pas à le prendre le temps aussi de cuisiner, qui ne savent pas cuisiner, c'est impossible pour eux. Donc on essaye de trouver, c'est pour ça que je me base toujours sur leur journée actuelle, qu'est-ce qu'ils font déjà, parce que c'est beaucoup plus facile de changer quelques détails dans ce qu'ils font déjà que de tout changer en entier. Et à partir de là, on essaie de faire une journée parfaite qui correspond à leurs objectifs, qui correspond à leur temps, à leur horaire, à leur goût. On essaie de mêler tout ça. Et puis surtout qui correspond à ce qu'ils veulent atteindre. Et donc je pars de leur métabolisme de base, j'enlève un petit 200-250 calories, et puis j'essaie de leur faire une journée parfaite par rapport à ça.
Ah, et ensuite, j'imagine que chaque semaine ou chaque fois, tu réalignes un petit peu, tu remodifies et pour que ça soit de plus en plus adapté.
Exactement, j'en reparle, qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été facile, pourquoi tu as triché cette journée-là, pourquoi ça s'est bien passé là, qu'est-ce qui a fait ça, puis on peaufine au cours du temps.
Pour toi, la triche, c'est un échec? Enfin, la triche, tu sais, le craquage, est-ce que... parce qu'il y a plusieurs visions sur ça, sur c'est pas grave de craquer, c'est grave de craquer, comment tu le vois, toi, ça?
Ben, ça dépend quel genre de craquage.
Bah, quelqu'un, par exemple, qui aime le sucre, c'est pas compris dans son plan alimentaire de la journée, et puis va passer au magasin, va prendre une barre de chocolat ou un soda, parce que... Enfin, un coca ou n'importe quoi.
En fait, dans mon plan, j'essaie de prendre ça en considération, dans le sens où je pose un certain nombre de questions. Et si leur problème, c'est justement, ben, ton exemple, la barre de chocolat, j'aime beaucoup le sucre, puis quand je passe devant, j'arrive pas à m'empêcher. Ok, ben moi, je vais essayer de trouver des astuces qui vont t'empêcher d'avoir cette réaction-là. Et si tu as cette réaction-là, comment faire pour que ça soit pas si grave que ça? Bon, ben écoute, est-ce que ton problème, c'est le sucre? Ok. Ramène-toi toujours 5-6 dattes avec toi, et puis dès que tu as une petite crise de sucre ou quoi, mange des dattes. Dattes super sucrées, ça peut. Généralement, les gens aiment beaucoup. C'est un exemple, hein, mais. Et puis, bon, ben, le moment où tu as vraiment envie d'aller acheter ta barre de chocolat, mange tes dattes, et puis ça va le faire.
Et ça va couper ton envie après. Ouais.
Exactement, exactement. Et puis, des fois, j'ai d'autres cas, c'est le soir, j'arrive chez moi, j'ai tellement faim que au lieu de me faire. Un petit plat, je me fais un énorme saladier de pâtes, et puis du coup, bah, ça c'est overcalorie. Là, je mange beaucoup trop. Donc, moi, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Ben, peut-être dans ton après-midi, te trouver quelque chose qui pourrait temporiser un petit peu ta faim, caler un petit peu pour pas que tu arrives et que tu défonces ton frigo en rentrant. Bon, ben là, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Pourquoi pas quelques amandes que tu pourrais grignoter, une amande toutes les 20 minutes, ou on peut gérer un petit peu ça pour que toi ça soit optimal toute ta journée, et puis que au final ça soit pas super compliqué et que tu sois pas, en fait, que tu sentes même pas que tu sois dans une diète, en fait. Et donc,
D'accord.
en avançant comme ça, on arrive à créer quelque chose, une routine qui est jamais parfaite là, mais qui est vraiment mieux qu'est-ce qu'ils font d'habitude. Et ça, plus l'entraînement, ben, ça fonctionne très très bien.
Ok. C'est quoi la chose, c'est pour passer un peu du coq à l'âne là, la chose que tu as réalisée dont tu es le plus fier jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en sport ou dans ta vie personnelle en général, hein. Question un peu compliquée, je l'admets.
Je suis très fier du fait que je suis arrivé à créer une clientèle solide, voire même très solide en quelques années. On m'avait toujours dit, tu verras, au début, c'est super compliqué. Les clients, ça va prendre 5 ans pour monter une clientèle, et puis du jour au lendemain, ça peut tout s'effondrer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été un petit peu aidé au début. Donc en gros, je travaillais pour quelqu'un qui avait déjà une clientèle solide, et du coup, lui me référait des clients. Et on avait un arrangement autour de ça. Et donc j'ai commencé par ça. Donc pas une abondance au début, mais j'ai pu travailler un petit peu, faire mes armes. Et puis petit à petit, je me suis trouvé mes propres clients. Et puis propres clients, encore, encore et encore. Et j'en suis arrivé à remplir mon horaire. Donc, j'ai déjà fait des très, très grosses semaines où je me suis dit, non, là, c'est trop, dans le sens où je vais me mettre en danger. Puis, je devenais quasiment fou. Là, je me réveillais la nuit, puis je pensais que j'étais au gym, puis je cherchais mes clients, je savais pas quel. Ah, c'était trop. Et donc, là, je me suis dit, OK, j'ai quand même vraiment une clientèle solide au point où j'arrive pas à tout assumer. Et donc, depuis 6 mois, là, j'ai pris quelqu'un avec moi à qui je réfère des clients. Et ça, c'est quand même une belle fierté parce que je suis arrivé à créer ma clientèle assez abondante pour moi être plein et quasiment remplir l'horaire de quelqu'un d'autre. Et on ne se rend pas compte, mais j'avais toujours cette peur quand même avant de référer, de me dire, putain, si je réfère des clients à un autre et que moi, après, ben, je perds des clients, là, d'un coup, on n'est jamais sûr de sa clientèle, tu comprends? Tu dois le voir dans ton métier. Des fois, il y a des super booms où tu fais des grosses semaines, puis après ça, ça se calme. Donc, le fait de référer à quelqu'un et de ne pas prendre le client pour moi, mais de le donner à quelqu'un, ça a été une belle épreuve.
Un certain risque, ouais.
Ouais, c'est un certain risque.
Mais qui te permet de passer au niveau suivant aussi.
Exactement, exactement. C'est là où j'allais en venir. C'est passer au niveau suivant. C'est toujours des étapes dans une clientèle. Puis, la première étape était de trouver mes propres clients. Une fois que j'ai trouvé mes propres clients, remplir mon horaire de mes propres clients. Et puis maintenant, ça a été de référer. Et maintenant, mon but, c'est de remplir l'horaire de cette nouvelle personne. Et tout ça pour en venir où là, je me dis, je commence à vraiment rentrer dans ma tête, OK, ma clientèle est quand même solide. J'ai quand même créé quelque chose qui roule et qui roule très bien. Et ça, j'en suis assez fier. J'en suis assez fier pour le coup.
Et comment tu vois le futur maintenant, d'ici 2-3 ans, sur, tu comptes sur cette lancée? T'as des projets spécifiques?
Je suis assez incertain sur le futur, dans le sens où j'ai plein d'idées en tête. J'ai plein d'idées en tête et puis j'ai des envies autres que l'entraînement. Donc pour l'instant, je surfe sur ce que j'ai créé parce que j'aime beaucoup ça, j'aime mon business. Mon partenaire est incroyable avec moi, donc on travaille fort là-dessus. Je suis vraiment heureux de faire ce que je fais. Mais tout est incertain dans le sens où j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller voir plein d'autres choses. Et donc, je ne sais pas où je serai dans 3 ans, ça c'est sûr, je sais absolument pas où je serai. Mais sur un futur très proche, oui, je fonce dans ce que j'ai commencé. Et peut-être pourquoi pas avoir une personne de plus assez rapidement qui travaille avec moi. Ça pourrait être le prochain objectif. Sinon, ouais, je pourrais pas te répondre réellement parce que j'ai des envies un petit peu différentes que ce que je fais actuellement.
Ok. Bah écoute, c'est génial tout ça. Pour terminer, j'ai trois petites questions que je pose à chaque fin d'interview. Alors la première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné et que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait aujourd'hui la musculation et qui n'y connaît pas grand-chose?
Le meilleur conseil, ça serait vraiment identifier les objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire en fait? À quel endroit tu veux t'amener? Parce qu'on commence toujours la musculation, renforcer un muscle, c'est pas forcément le rendre plus performant pour telle ou telle chose. Et ça, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, c'est-à-dire que on pense que en faisant des squats, eh ben on va être meilleur en sprint ou en détente verticale.
Le transfert, il est vraiment pas sur tous les exercices et sur toutes les épreuves, hein.
C'est ça. Il faut vraiment identifier qu'est-ce que tu veux faire de mieux et qu'est-ce que tu veux que l'entraînement t'amène. Et une fois que tu as établi cet objectif, rechercher quelles ressources tu vas pouvoir utiliser pour t'amener à ce point-là. Et une fois que tu as compris ça, je pense que tu peux éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup de pertes de temps. Et donc, mon conseil, ça serait ça, vraiment établir les objectifs premiers de pourquoi tu t'entraînes et du coup, rechercher, faire tes recherches par rapport à ça, comment améliorer l'objectif que tu as choisi, comment arriver à l'objectif que tu as choisi Et je pense que tu perdras beaucoup moins de temps que la plupart des personnes qui vont un petit peu au feeling.
Ouais, à l'aveugle qui tâtonne, qui passe des mois à faire un peu n'importe quoi et finalement à se démotiver parce qu'il n'y a pas de résultat. Ouais.
Exactement, exactement.
Alors, deuxième question, que dirais-tu à quelqu'un qui vient de se blesser ou qui présente une douleur à l'entraînement? Premier réflexe, tu lui dis quoi? Tu sais quoi, je vais prendre un exemple simple. Il fait une série de bench press, de développé couché, une douleur à l'épaule. On ne sait pas exactement ce que c'est, que ça soit une déchirure, que ça soit enfin une élongation du pec ou un problème sur la coiffe des rotateurs ou quoi. Boum, qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là?
Bon, la première chose, ça va être d'identifier la blessure. Une fois que la blessure va être identifiée, ça va être identifier la cause. Parce que généralement, on ne se blesse jamais pour rien. Que ça soit pour moi là, que ça soit mental ou physique, il y a forcément une cause. Mettons, tu me parles de bench, la personne se blesse à l'épaule. Généralement, à tous les coups, ça va être le deltoïde antérieur. C'est souvent ce qui arrive. Bah peut-être que, mon ami, tu fais peut-être un peu trop de bench, puis pas assez de tirage. Du coup, tes épaules sont toutes balancées vers l'avant, puis tu crées une tendinite, tu crées une déchirure ou quoi que ce soit. Donc, une fois qu'on a identifié la blessure, on va pouvoir identifier la cause. Et sur cette cause-là, on va pouvoir travailler pour justement que cette cause disparaisse, en fait, qu'on puisse bah justement. Rééquilibrer pour plus que ça arrive. Je ne sais pas si
Ouais, bah,
j'ai été clair.
c'est hyper clair puisque c'est exactement la même vision que j'ai, hein. C'est rétablir un équilibre, trouver la cause, voilà, c'est ça, c'est que les choses n'arrivent pas comme ça.
C'est ça.
Soit il y a vraiment des antécédents, il y a une question de morphologie, il y a une question d'équilibre postural et ouais.
Et pour aller plus loin, il y a aussi le côté mental. Des fois, on se blesse, c'est pas uniquement dû à l'aspect physique. L'aspect mental est aussi très important, dans le sens où, mettons, quelqu'un qui se blesse physiquement, ça peut venir aussi d'un ras-le-bol général, d'une fatigue. On parle souvent de fracture, de fatigue. Généralement, le mental a une plus grande importance quasiment que le physique et l'état d'esprit aussi. Donc faire attention à ça aussi, dans quel état on est mentalement et faire attention à la blessure que ça pourrait engendrer aussi, là. Le corps est juste une seule pièce et généralement le mental fait comprendre les choses par des blessures, ou par des douleurs ou par d'autres choses. Donc, pas négliger l'aspect mental, puis comment on est justement en ce moment dans la tête là, c'est très important aussi.
Ouais, l'état d'esprit, ouais.
Le moral.
Et enfin, dernière petite question, est-ce qu'il y a une référence que tu recommandes, que ce soit un livre ou un coach ou peu importe, à quelqu'un qui souhaite améliorer ses connaissances dans le domaine de l'entraînement, du sport, ou même si tu as une autre référence en dehors du sport, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de psychologie, de comportement, est-ce que tu as une référence que tu recommandes à ceux qui vont nous écouter?
Moi, j'ai beaucoup aimé le livre La Bible de la préparation physique.
D'accord.
Je pourrais pas te dire l'auteur, mais je trouve qu'il y avait quand même tout et de façon assez ludique. Ça, c'est un bouquin que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Puis il parle justement de tous les aspects par rapport à l'objectif. Donc, c'est-à-dire qu'il parle de prise de masse musculaire, mais il parle aussi d'augmentation de la vitesse, de l'endurance, toutes ces choses-là, de la force. Donc, on peut vraiment, je rebondis un petit peu par rapport à tout à l'heure, mais choisir l'objectif qu'on développe et puis comprendre comment développer cet objectif-là. Donc, pour ça, c'est super important, c'est super intéressant. Je sais pas si ça serait assez facile à comprendre pour quelqu'un qui est vraiment débutant, mais je pense que ça vaut la peine quand même. Il y a un tableau récapitulatif à la fin là qui est quand même super intéressant. Et sinon, bah, moi je trouve que le développement personnel est super intéressant et il suffit d'aller un petit peu sur les podcasts ou sur les vidéos YouTube là pour voir toutes sortes de bonnes choses. Je te dirais pas de nom particulier, Mais toujours pareil, chercher des réponses à tes questions en regardant des vidéos, ça peut être super intéressant. Ne fais pas ça toute ta journée, là, mais ça peut répondre à beaucoup de questions, pousser à la réflexion, puis trouver sa propre vérité aussi. Et s'identifier un petit peu par rapport à ça. Et je pense que je me suis mis un petit peu plus récemment là, et je trouve ça super intéressant. Donc pourquoi pas mêler ça aussi au développement personnel de tous les jours là. Je pense que c'est une bonne méthode.
Si les gens souhaitent te contacter, où c'est qu'ils peuvent te retrouver? Je sais que tu as un Instagram assez populaire.
J'ai un Instagram raphaël.fitness. J'ai aussi une page Facebook qui est Raphaël Fitness, entraînement personnel. Et j'ai aussi un site internet qui est raphaël.fitness, www.raphaël.fitness. Donc, allez voir ça. J'ai une rubrique blog. J'ai aussi des avant-après, autant sur mon Instagram que sur mon site que mon Facebook. Donc, c'est ici. Toutes les questions sont les bienvenues.
Je mettrai les trois liens. Si les gens veulent directement prendre contact avec toi, que ce soit pour un rendez-vous, pour un plan personnalisé, c'est directement sur ton site, j'imagine. L'Instagram, c'est plus pour s'ils veulent te suivre, voir quelques petites touches de conseils par-ci, par-là.
Ben, en fait, je m'occupe de les trois réseaux sont liés, donc peu importe la nature du réseau, là, il n'y a pas de problème.
Ok, super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais rajouter après toute cette grande discussion que tu souhaiterais mentionner avant de terminer?
On a fait pas mal le tour de très beaux sujets là, donc si les gens ont d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas, et puis on sera un plaisir de répondre à tout ça.
Super. Bah écoute, je te remercie d'être passé sur le podcast.
Merci à toi, Jérôme.
Et puis je te dis à la prochaine.
C'est bon, on se recroise.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si vous êtes à Montréal et que vous cherchez un entraîneur personnel, ou même si vous n'êtes pas à Montréal et que vous souhaitez suivre Raphaël sur les réseaux, je mettrai en description de l'épisode les liens mentionnés, donc la page Instagram, la page Facebook et le site internet de Raphaël Fitness. Si vous aimez le podcast Biomécanique et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes. Ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laissez un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à mieux se classer, à découvrir par de nouvelles personnes, et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez écouter les prochaines interviews qui sortiront, je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.